La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, je m'appelle Gaël Cozandet et je suis pasteur de l'église adventiste à Toulouse. Alors si vous avez l'habitude de vous promener en forêt ou en montagne, vous avez peut-être croisé ces petits tas de pierres en forme de pyramide. On appelle ça des cairns. C'est un mot celtique qui nous vient d'Écosse et qui désigne des petits monticules de pierres créés pour marquer un lieu. Alors comme ça, les randonneurs peuvent vérifier qu'ils sont sur un chemin connu. Et en passant, chacun peut y ajouter sa propre pierre et ça devient une œuvre collective. C'est une manière de dire « voilà, moi aussi, je suis passé par là ». Les cairns sont donc des signes qui servent de repères et qui marquent une expérience personnelle. On laisse une trace d'un passage et d'un vécu pour ceux qui viennent après. Peut-être aussi pour ne pas se perdre, comme dans le conte du Petit Poucet. On imagine déjà les principes que l'on peut transposer à la vie spirituelle. Des traces qui marquent l'expérience personnelle, qui posent des repères et qui permettent la transmission. Eh bien, vous serez peut-être surpris de découvrir qu'on trouve des histoires de cairns dans la Bible. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer celle de Jacob. Un homme qui ne connaissait pas Dieu, puis qui va le rencontrer personnellement et qui va laisser sur son chemin des pierres du souvenir qui serviront de repères. Nous lisons le début de cette histoire dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Tout commence avec une naissance, ou plutôt deux, des jumeaux. Le chapitre 25 nous raconte une grossesse mouvementée, où déjà les enfants se battaient dans le ventre de leur mère Rebecca. Lors de l'accouchement, Jacob est le deuxième qui naît, quelques secondes après son frère Ésaü. Il tient encore le talon de son frère et ne veut pas le lâcher. On donne au premier enfant le nom d'Ésaü, qui signifie « le poilu », et en effet il était couvert de poils. Et l'on nomme son frère du nom de Jacob, parce que ça veut dire « talon », en souvenir des circonstances de sa naissance. La référence à un talon n'est pas de bon augure. Les lecteurs de la Genèse se souviennent de la prophétie émise par Dieu juste après le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il est annoncé que la descendance du serpent, trompeur, mordrait le talon de la descendance de la femme. Comme le serpent, Jacob est donc présenté comme un talonneur, celui qui poursuit de près pour usurper la première place. Jacob est donc dès le début présenté sous un jour très défavorable. Alors, on n'aurait pas pu faire des enfants plus différents. Le verset 27 nous dit qu'Ésaü devint un chasseur, un homme de la campagne. Mais Jacob était un homme tranquille qui préférait rester sous la tente. Et la rivalité va même s'étendre aux parents puisque le père Isaac a une préférence pour Ésaü et Jacob est le préféré de la mère Rebecca. La suite de l'histoire révèle que le nom de Jacob, le talonneur, lui va comme un gant. Toujours en rivalité avec son frère, il n'a pas beaucoup de caractère, mais il va tout faire pour prendre la place de l'aîné. À cette époque, le droit d'aîné signifiait que le premier-né héritait d'une double part de l'héritage et qu'il avait l'honneur de devenir un jour le chef de famille. Dans un premier épisode, Jacob voit arriver son frère épuisé par une longue chasse et il négocie le droit d'aîné en échange d'un plat de lentilles. Puis dans un deuxième épisode raconté au chapitre 27 de la Genèse, on nous dit qu'Isaac était devenu vieux et qu'il avait perdu la vue. Sentant venir la fin, il annonça vouloir procéder à la cérémonie de succession par laquelle il transmettrait le rôle de chef de famille à l'aîné. Et cela passait par une bénédiction. Isaac a donc demandé à Ésaü d'aller lui chercher du gibier pour lui faire un repas comme il les aimait, et il lui donnerait sa bénédiction. Alors Ésaü avait oublié depuis longtemps qu'il avait vendu son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles. Et lorsque Rebecca, la mère, eut vent de l'affaire, elle mit au point un stratagème pour que Jacob reçoive la bénédiction à la place d'Ésaü. Elle prépara un bon plat et envoya Jacob auprès de son père couvert de peau de bête pour que son père pense que c'était Ésaü qui était resté très poilu. Par la tromperie, Jacob a donc reçu la bénédiction paternelle à la place de son frère. Et à partir de ce moment, Ésaü n'aura plus qu'un objectif, attendre la mort de leur père pour tuer Jacob. Rebecca décide alors d'éloigner Jacob pour le protéger, et donc elle l'envoie dans la famille de son frère. Le Jacob tranquille, qui aimait rester sous la tente, doit donc tout quitter, et il part pour un long voyage vers lui-même. Donc dans le chapitre 28, qui raconte ce voyage, nous trouvons notre première pierre du souvenir. Je lis à partir du verset 10. Jacob quitta Beersheba pour se rendre à Charan. Il s'installa pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et se coucha en ce lieu. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait les cieux. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait devant elle et disait à Jacob, « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. À travers toi et tous tes descendants, toutes les familles de la terre seront bénies. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. » Jacob s'éveilla et dit, « Vraiment, le Seigneur est dans ce lieu, mais je ne le savais pas. » Il eut peur et déclara, « Comme ce lieu est redoutable, c'est vraiment la maison de Dieu et la porte des cieux. » Il se leva tôt, il prit la pierre qui avait été sous sa tête, la dressa comme une stèle et versa de l'huile en onction sur son sommet. Il appela ce lieu Bethel, ce qui veut dire « maison de Dieu ». Alors il y a plusieurs choses intéressantes dans ce texte. Tout d'abord, c'est la manière dont Dieu se présente à Jacob. Il lui dit « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac ». Il ne se présente pas comme son Dieu, mais comme le Dieu de ses parents, le Dieu dont il a entendu parler dans sa famille. Jacob a grandi avec l'histoire de son mythique grand-père Abraham, qui avait cru entendre une voix lui dire de tout quitter et qui a été assez fou pour le faire. On lui a répété l'histoire de la promesse selon quoi sa famille deviendrait une grande nation qui serait une bénédiction pour tous les peuples de la terre. C'est parfois par cela que commencent nos chemins de foi. On entend parler de Dieu dans notre famille ou dans notre cercle d'amis. On suit des traditions ou des habitudes sans trop se poser de questions. Jusqu'à cet épisode du récit, à aucun moment nous ne voyons Jacob prier, parler à Dieu, avoir une démarche personnelle. Puis vient cette révélation. Et c'est la deuxième chose que je note dans ce récit. Jacob n'a rien demandé. C'est Dieu qui offre. C'est Dieu qui prend l'initiative du contact et de la bénédiction. Pourtant, Jacob n'a pas un passé bien reluisant. Il est le talonneur, l'usurpateur, celui qui obtient ce qu'il veut par la tromperie. Il est pétri des mauvais penchants inscrits en lui par les mensonges du serpent d'Éden. Voilà ce qu'il est. C'est un pécheur qui a bien des choses à se reprocher. Et pourtant, Dieu le choisit, lui, plutôt qu'Ésaü. Et je vois là un Dieu qui casse les traditions humaines comme le droit d'aînesse pour donner sa chance au dernier, à tous les petits destinés à l'échec par leur environnement social ou religieux. Et Dieu lui parle du haut d'un escalier qui fait le lien entre la terre et le ciel. Il y a cette communication qui est là. Alors, ce n'est pas comme la tour de Babel qui était une tentative de l'homme de monter jusqu'au ciel et d'usurper la place de Dieu. Ici, c'est Dieu qui construit un passage pour rejoindre l'homme sur terre dans sa réalité. C'est toute la grâce de Dieu qui apparaît dans son initiative. On peut déjà y voir les racines de l'évangile. Voici ce que dit Louis Évely dans son livre « La prière d'un homme moderne ». Je cite « Il y a deux sortes de pharisiens. Ceux qui pensent qu'ils ont le droit d'être aimés parce qu'ils le méritent et ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas être aimés, qui refusent d'être aimés s'ils ne le méritent pas. Mais le christianisme est la bonne nouvelle que Dieu t'aime indigne et que Dieu n'a pas besoin que tu en sois digne pour t'aimer. Dieu n'a pas attendu que nous soyons aimables pour nous aimer. Dieu ne nous aime pas parce que nous en sommes dignes, mais il nous aime si patiemment, si tendrement, que nous finirons par le devenir. » Fin de citation. Dieu s'adresse donc à Jacob et quelque part il est en train de lui dire « Tu ne seras pas seul ». Et c'est le plus important quand on part à la quête de son chemin, à la quête de Dieu. On peut avoir peur, on peut se dire que ça va faire mal et qu'on ne va trouver que du vide. Et Dieu répond « Je serai là, sur ton chemin ». Alors, Jacob réagit avec deux gestes. D'abord, il pose la première pierre d'un cairn. Cette pierre qui lui avait servi d'oreiller devient un autel, un monument, un lieu sacré. Et il donne à ce lieu le nom qui correspond à son expérience du moment. Jacob l'exilé, le sans-abri, a été reçu dans la maison de Dieu. Ce lieu s'appellerait donc désormais Bethel, maison de Dieu. Et deuxième geste, Jacob prie. Pour la première fois de sa vie, il s'adresse à ce Dieu inconnu qui lui veut du bien. Voici ce qu'il lui dit. Si le Seigneur est avec moi et me protège sur ma route, s'il me donne de quoi manger et m'habiller, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée et consacrée sera une maison de Dieu, et c'est à lui que je donnerai le dixième de tout ce qu'il m'accordera. » Jacob fait donc un pacte avec Dieu. Il dit à Dieu, « D'accord, Dieu de mes parents, tu dis que tu me veux du bien, que tu veux faire alliance avec moi. Alors montre-le-moi afin que j'ai ma propre expérience avec toi. Que tu ne sois pas seulement le Dieu de mes pères, mais mon Dieu. Je reviendrai dans ce lieu, je verrai cette pierre qui me rappellera cette expérience, et ainsi je ne pourrai pas dire que j'ai tout rêvé, tout inventé. Cette pierre sera mon repère dans mon cheminement de foi. » La suite de l'histoire raconte que Jacob va arriver donc chez son oncle et qu'il va travailler là pendant 20 ans. Au bout de nombreuses péripéties, il en reviendra avec 2 femmes, 12 enfants et de nombreux troupeaux. La promesse s'est réalisée. Mais avant de revenir à Bethel, Jacob devait encore passer par une autre expérience. Il devait faire face à son passé et affronter son frère. Au chapitre 32 de la Genèse, Jacob retourne dans son pays et il apprend que son frère vient à sa rencontre avec une armée. Il a très peur et il tente de gérer la situation à la manière dont il a toujours fonctionné, c'est-à-dire par l'astuce. Alors il partage sa troupe en 2 groupes pour répartir les risques. Il envoie des troupeaux comme cadeau à son frère pour l'amadouer. Il fait même passer ses femmes et ses enfants devant lui de l'autre côté d'une rivière pour avoir le temps de s'échapper tout seul si son frère attaquait. Jacob est toujours ce talonneur, le calculateur, ce manipulateur égoïste qui trafique pour s'en sortir. Mais c'est là que va avoir lieu l'un des épisodes les plus mystérieux que nous raconte la Bible. Je lis dans Genèse, chapitre 32, à partir du verset 23. Au cours de la nuit, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il leur fit traverser le torrent du Yabok avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand ce dernier vit qu'il ne pouvait pas avoir l'avantage sur Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche et celle-ci se déboîta. Il dit alors, « Laisse-moi partir car voici l'aurore. » « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, » répliqua Jacob. L'autre demanda, « Comment t'appelles-tu ? » « Jacob, » répondit-il. L'autre reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as eu l'avantage. » Jacob demanda, « Dis-moi donc quel est ton nom ?»« Pourquoi me demandes-tu mon nom ? » répondit-il. Là même il bénit Jacob. Celui-ci déclara, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Lors de cet étonnant combat, Jacob comprend peu à peu avec qui il est en train de se battre. Dans l'obscurité de sa nuit, il pensait se battre contre un homme, peut-être contre tous les hommes. Mais avec la lumière qui commence à poindre dans sa vie, il se rend compte qu'il est en train de se battre contre Dieu. Alors, il joue le tout pour le tout, il demande la bénédiction. Visiblement, la bénédiction qu'il avait reçue de son père Isaac n'avait pas suffi. Elle n'était pas valable parce qu'il l'avait volée. Placé devant le Dieu qui se révèle à lui, il demande la bénédiction d'un père qui désire réellement le bénir. Alors bien sûr, il ne se fait pas d'illusions sur ses mérites. Lorsque Dieu lui demande son nom, il ne ment plus, comme avec Isaac. Il ne se fait plus passer pour un autre. Il admet qu'il est Jacob, le talonneur, l'usurpateur. Et c'est là que Dieu lui donne un nouveau nom. Il s'appellerait désormais Israël, celui qui se bat. C'est une véritable conversion qui a lieu dans la vie de Jacob. Il en ressort boiteux, renommé et béni. Ce n'est plus tout à fait le même homme. D'ailleurs, juste après, il passe devant toute la troupe et sa famille pour rencontrer son frère. Il assume son passé et il se place en première ligne pour l'affronter. Il n'a plus besoin de se battre. Au lieu de la guerre, finalement, c'est la réconciliation qui a lieu. Et c'est juste après cet épisode qu'il pose une 2e pierre du souvenir. Nous lisons dans le chapitre 33, versets 19 et 20, que Jacob, de son nouveau nom Israël, arrive dans une ville appelée Sichem. Là, il achète un bout de terrain dans ce qui sera plus tard le pays promis. Il y dresse une pierre et il l'appelle El Eloé Israël, Dieu est le Dieu d'Israël. C'est comme si Jacob disait, ici je veux me rappeler que Dieu n'est plus seulement le Dieu de mes parents. Maintenant, j'ai appris à mieux connaître Dieu. Et il est le Dieu de ma nouvelle identité, le Dieu qui m'a converti et transformé. Mais la boucle n'était pas encore totalement bouclée. Lorsque Jacob luttait avec Dieu, il lui avait demandé son nom et il n'avait reçu aucune réponse. Il restait un doute sur qui était ce Dieu qui voulait l'accompagner. Alors, au chapitre 35, Dieu dit à Jacob de retourner à l'endroit d'où il était parti, Bethel. le lieu où Dieu s'était révélé à lui dans un rêve pour la première fois, là où son chemin spirituel avait commencé, là où Jacob avait promis que Dieu deviendrait son Dieu s'il retournait sain et sauf un jour. Eh bien, ce jour était arrivé. Jacob ordonne aussitôt à sa famille de se débarrasser de toutes les idoles, les vêtements et les objets liés au culte des autres dieux. On se rappelle notamment des statues que Rachel, l'une des femmes de Jacob, avait volées à son père Laban et qu'elle avait cachées lorsqu'il les avait réclamées. Cette fois, la famille a choisi son camp. Toute la place devait être donnée au Dieu qui parlait à Jacob. Dieu était devenu son Dieu, leur Dieu. Jacob arrive donc à Bethel. Il reconnaît la pierre qu'il avait placée là 20 ans auparavant. Il se souvient de sa première rencontre avec Dieu. Et voilà ce que je lis dans Genèse, chapitre 35, à partir du verset 10. Je lis. « Dieu apparut de nouveau à Jacob, à son retour de Mésopotamie, et il le bénit. Il lui dit, « Ton nom était Jacob, mais on ne t'appellera plus ainsi. Désormais, ton nom sera Israël. » Dieu l'appela donc Israël. Il lui dit encore, « Je suis El Shaddai, le Dieu souverain. Je te donnerai de nombreux enfants pour que tu deviennes l'ancêtre d'un peuple et même d'un ensemble de peuples. Il y aura des rois parmi tes descendants. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne et plus tard je le donnerai à tes descendants. » Puis Dieu s'éleva du lieu où il avait parlé avec Jacob. Jacob dressa là une pierre, il versa de l'huile et une offrande de vin sur cette stèle. Il appela Bethel, ce qui veut dire maison de Dieu, ce lieu où Dieu avait parlé avec lui. Ça y est, la boucle est bouclée. Dieu révèle enfin l'un de ses noms à Jacob. Il s'appelle El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce nom qu'il avait révélé à Abraham au moment de faire alliance avec lui au chapitre 17. La même alliance est nouée cette fois avec Jacob. Dieu restera l'allié de sa famille. Jacob Israël sera le père d'une grande nation qui recevra le pays promis. Et Jacob ajoute une pierre à son premier monument. Son cairn s'enrichit d'une trace de son deuxième passage. Bethel deviendra par la suite un lieu sacré où l'on continuera à adorer El Shaddai, le dieu de Jacob Israël. Alors cette habitude perdurera par la suite. On continuera à placer des pierres comme des monuments et à leur donner des noms pour conserver la mémoire d'expériences vécues avec Dieu. On peut penser par exemple à l'expérience de la victoire du peuple d'Israël sur ses ennemis racontée dans 1 Samuel chapitre 7. Après la victoire, le prophète Samuel fait dresser une pierre et l'appelle Ebenezer, c'est-à-dire la pierre du secours, là où Dieu les a secourus. De la même manière, la plupart de nos villages français ont une pierre dressée qui porte les noms des soldats morts lors des guerres mondiales. Les monuments sont des moyens de nous empêcher d'oublier, car c'est là le danger, oublier. Dans la Bible, l'oubli est l'explication principale des infidélités du peuple de Dieu. Je lis par exemple dans le psaume 106, versets 13 et 21. Nos ancêtres ont vite oublié ce que Dieu avait fait. Ils n'ont pas attendu qu'il réalise son projet. Ils ont remplacé Dieu, lui qui était leur gloire, par la statue d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils ont oublié le Dieu qui les avait sauvés et qui avait fait de grandes choses pour eux en Égypte. Alors c'en est au point où l'une des missions des chantres dans le temple était de constamment rappeler au peuple ce que Dieu avait fait. Il existe toute une liste de psaumes du souvenir, par exemple les psaumes 38 et 70. Alors, si c'était important à ce point, ça l'est encore sûrement pour nous aujourd'hui. Si nous voulons éviter de nous égarer spirituellement et existentiellement, nous avons besoin de nous rappeler régulièrement ce que Dieu a fait pour nous. C'est le but de ces pierres du souvenir, ces monuments que nous pouvons placer dans nos vies comme des repères pour nous remettre sur la voie lorsque nous nous sommes perdus. Alors bien sûr, il y a tout ce que l'Église ou les traditions ont mis en place, la Bible particulièrement, qui nous rappelle les œuvres de Dieu et notamment le Dieu que nous a révélé Jésus-Christ. Mais il y a aussi besoin de pierres du souvenir qui nous rappellent le Dieu qui s'est révélé à nous personnellement. Chez moi, ça a pris la forme de carnets intimes que j'ai commencé à écrire depuis l'âge de 15 ans. À chaque fois que j'ai vécu une expérience personnelle avec Dieu, je l'ai raconté dans un carnet pour m'en rappeler. Pour que si un jour je suis tenté de dire que Dieu n'existe pas, qu'il n'est qu'une invention de mon esprit ou qu'il m'abandonne, je puisse y retourner et dire « Oui, Dieu était là, donc il est encore là avec moi ». J'ai maintenant une bonne vingtaine de carnets de toutes les formes remplis de ces souvenirs. chaque pierre du souvenir a son nom, c'est-à-dire une facette de Dieu qui s'est révélée par telle ou telle expérience. Une pierre porte le nom du Dieu Père, une autre celle du Dieu du secours, ou de la guérison, ou de la justice. C'est Dieu qui prend toujours l'initiative de révéler une facette de sa personne à nous. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on se retourne sur notre passé pour regarder nos pierres du souvenir, on se rend compte qu'elles sont alignées, elles tracent un chemin. Ce sont parfois des boucles qui nous font retourner au même lieu spirituel pour mesurer le chemin parcouru. Ce sont parfois des chemins tordus que nous voyons devenir plus droits. Ce sont des pierres que nous partageons avec d'autres et qui deviennent l'occasion pour eux de placer leur propre pierre du souvenir. Alors aujourd'hui, comme avec Jacob, nous sommes tous invités à un voyage pour rencontrer le Dieu dont on a entendu parler, afin qu'il devienne notre Dieu. Et n'oublions pas de garder des traces de ces expériences pour qu'elles deviennent nos pierres du souvenir. Que le Seigneur vous bénisse dans votre cheminement de découverte. Amen.
Parfois, ma foi se fait bien bousculer, je dois bien l'avouer, mon cœur a aussi ses failles, ses blessures anciennes comme autant d'entailles. Je n'ai pas honte de ça, car tu connais tout de moi, pourtant tu m'aimes quand même. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Se sentir étranger au beau milieu de gens, de lieux que je connais, alors que tu veux c'est ailleurs qu'il vaudrait mieux partir. Si je m'éloigne de toi, c'est souvent bien malgré moi. Tu sais me ramener, me ramener. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, en ta présence. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Et qu'importe l'endroit, mon âge ou bien mes choix, tu ne changes pas dans ton amour pour moi. Et qu'importe l'endroit, mon âge ou bien mes choix, toi tu ne changes pas. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence.